Il est 18h30 sur la Clé des Ondes et c'est l'heure de Point Chaud. Point Chaud, tous les jours de 18h30 à 19h, c'est un tour de l'actu sociale et culturelle sur la Clé des Ondes. Ce soir, on vous propose de réentendre l'essentiel de ce qui s'est dit dans notre plat de résistance. C'était ce midi sur notre antenne. Avant tout, donc, on commence par revenir sur ce rassemblement d'hier soir. Un rassemblement spontané, même s'il avait été appelé par le journal Rupture et par l'offensive antifasciste Bordeaux, il a très vite circulé et des milliers de personnes se sont retrouvées place de la Victoire à 20h avant de partir en manifestation sauvage dans les rues du centre-ville. Une manif joyeuse, déterminée, avec beaucoup de jeunes, notamment des lycéens. La préfecture a annoncé le chiffre fantaisiste de 1500 personnes sur place. On a plutôt compté avec les reporters de la Clé des Ondes aux alentours de 13 000 personnes. On va écouter tout de suite un petit mélange d'ambiance et de prises de parole recueillies hier pendant la manif.
On est venu ici parce que aujourd'hui, on arrête de regarder les fachos là, nous cracher dessus, cracher sur tout le monde, piétiner tout le monde en fait. Aujourd'hui, on se rassemble pour se battre pour la moindre chose qui nous reste et pour nous-mêmes en fait, pour la dignité tout simplement. Et aujourd'hui, on se réunit aussi pour dire aux fascistes là qu'on sait très bien ce qui se passe et qu'on le sait et qu'on fera absolument tout ce qu'on peut à chaque fois et tous les jours pour se battre contre ça. Parce que c'est fini là. Ils ont perdu en fait, c'est tout là. Ils ont perdu le moindre respect là que moi là, en tant que personne racisée, je dédie leur donner là. Ils l'ont perdu en fait. Nous ne les respectons plus. Parce que ils ne nous respectent pas de toute façon. Voilà. Donc, juste pour vous dire que moi j'étais tout à l'heure au rassemblement pour la Palestine. Qu'est-ce qu'on fait là? Et si vous n'avez pas quoi faire en fait, ben venez me voir parce que moi je sais quoi faire. Et il y a plein de personnes ici qui savent quoi faire. Et c'est maintenant, c'est terminé. Là c'est terminé, ça suffit. Et on va y arriver en fait. Il n'y a plus le choix.
Alors moi je m'appelle Julie, j'ai 20 ans.
Et qu'est-ce que ça t'évoque justement, ce qui s'est passé hier soir? Est-ce que t'as des peurs?
La peur, forcément. La peur, on sent qu'on est dans une société qui ressemble fortement à 1930 et on sait très bien ce qui s'est passé ensuite. La peur qu'on trouve un bouc émissaire au milieu d'entre nous pour atténuer les peurs des autres et que du coup, en fait, ce soit des personnes qui se font manipuler pour voter Rassemblement National et justement donner du pouvoir à ces fascistes-là. Bien sûr, on attend une union de la gauche, qu'ils essayent de faire une NUPES 2 en quelque sorte, avec vraiment toutes les gauches qui mettent de côté leurs différends pour voir ce qui nous attend vraiment, qui est faire front à un Premier ministre qui pourrait être d'extrême droite. Et je pense que c'est ça que j'attends aujourd'hui. C'est pour ça que je suis là ce soir, je pense que c'est pour ça qu'on est tous là. C'est pour dire qu'on attend ça de la gauche et je pense que c'est le premier pas avant les prochaines élections législatives.
Et comment est-ce qu'elle est rendue possible, cette montée de l'extrême droite pour toi?
Je pense premièrement, et c'est un gros point, c'est la place dans les médias de l'extrême droite. On accorde beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de parole à tout ce qui est, on va dire, catégorisé ou plutôt étiqueté extrême droite. Hein. On a des pseudo journalistes qui se nomment éditorialistes et qui commentent et qui font la pluie et le beau temps de la société actuelle sur des chaînes audiovisuelles de grand public qui sont détenues par des milliardaires qui ont eux-mêmes une orientation portée très très à droite. Ce serait intelligent de souligner la grande place accordée à l'extrême droite. Je vais prendre pour exemple la Belgique qui, eux, à contrario de la France, imposent un cordon sanitaire pour ce qui est de la place de parole et du temps de parole dans l'audiovisuel sur les plateaux belges. Et ainsi, on ne retrouve pas des scores pareils sur l'extrême droite belge. Donc je pense qu'il y a des choses à revoir. La copie n'est pas du tout bonne. Et là, il faut une, une gérance et plutôt une intervention de l'État sur, la, sur les grands médias français.
Je m'appelle Anaïs, je suis française.
Et qu'est-ce qui t'a poussé à venir dans la rue ce soir?
Je suis française d'origine malienne et je suis pour la liberté, je suis pour l'humain. Et je pense que la liberté, elle est fragile et qu'il faut la défendre, parce qu'on risque de la perdre.
Voilà pour ce reportage de Léa Perron dans la manifestation hier à Bordeaux avec, je le rappelle, plus de 10 000 personnes dans la rue. Ce soir, c'est l'AG féministe de Gironde qui appelle les féministes à s'organiser contre l'extrême droite. Pour cela, elle donne rendez-vous donc ce mardi à 18h30 au local du Planning, au 19 rue Eugène Leroy, c'est-à-dire dans le quartier de la gare Saint-Jean. Vous l'avez peut-être entendu par ailleurs, hier soir, donc après plusieurs heures de discussion à huis clos, Fabien Roussel du Parti communiste français, Marine Tondelier des écologistes, Olivier Faure du Parti socialiste, Emmanuel Bompard de la France insoumise ont annoncé qu'ils prenaient le serment d'être unis jusqu'à la victoire. Ces membres de la NUPES rejoints par Place Publique, Génération et la gauche républicaine et socialiste. Dans chaque circonscription, écrivent-ils, nous voulons soutenir des candidatures uniques dès le premier tour. Elles porteront un programme de rupture détaillant les mesures à engager dans les 100 premiers jours du gouvernement du nouveau Front populaire. Notre objectif est de gouverner pour répondre aux urgences démocratiques, écologiques, sociales et pour la paix. Il reste tout de même pour ces 7 organisations politiques à négocier l'essentiel, c'est-à-dire le contenu du programme et surtout la répartition des circonscriptions pour ne présenter qu'un seul candidat dans chacune de ces circonscriptions. Pour le premier point, chaque parti a émis ses revendications. Celles du PS et de Place Publique comprennent des revendications clivantes avec la France insoumise, comme le rejet de la brutalisation du débat public et de la violence physique ou verbale qui est devenu le leitmotiv de Raphaël Glucksmann pour dénoncer les propos de Jean-Luc Mélenchon. Celles de LFI, à l'inverse, comprennent des revendications clivantes avec le PS, comme le retour à la retraite à 60 ans et le refus des grands projets inutiles et imposés, comme le projet d'autoroute A69. On va continuer d'évoquer cette situation avec nos deux invités du jour. Le premier, il est avec nous par téléphone. Bonjour Thibault Lhonneur.
Bonjour Baptiste.
Tu es conseiller municipal France Insoumise à Vierzon dans le Cher et tu écris notamment pour la fondation Jean Jaurès qui est réputée plutôt proche du PS, on peut dire ça ?
Complètement.
Et puis on est en studio avec Jean-Marie Darmian. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour.
Ancien maire de Créon, ancien vice-président du département de la Gironde et membre du Parti Socialiste. Et tu écris, toi, sur ton blog Roue Libre. On va commencer avec toi, Thibault, et revenir un peu sur cette carte des résultats, même si on dit que c'est un petit peu tôt pour l'analyser. La première chose quand même qui frappe quand on regarde la carte des résultats de dimanche, c'est que la France est brune. Le RN arrive en tête partout sur le territoire. En Gironde, c'est 97,6% des communes où le RN est arrivé en tête, sauf quelques rares îlots de rose où le PS Place Publique arrive en tête et où le RN fait des mauvais scores. Et ces îlots, c'est majoritairement les grandes métropoles. Cette division entre des grandes agglos qui votent à gauche ou macronistes et des campagnes qui votent à l'extrême droite, ça fait des années qu'on en parle, qu'on voit ça monter et on a l'impression que la gauche est incapable d'inverser cette tendance. Est-ce que tu partages cette analyse, Thibault ?
Alors, je la partage, mais je mets un bémol quand même sur cette analyse. C'est une élection où déjà il y a eu peu de votants. C'est-à-dire qu'on est à peu près à 50-55% de votants, et on sait très bien que traditionnellement c'est quand même la gauche qui s'abstient. Ça, c'est un premier élément. Et je pense que sur cette élection, l'extrême droite a fait le plein d'électeurs. Et ça se retrouve par rapport à ça se confirme par rapport au vote du premier tour des législatives de 2022, où globalement, on voit bien que là où le RN a performé en 2022, il reperforme en 2024. Alors, c'est une prouesse pour le RN que d'avoir réussi à faire venir sur une élection qui généralement n'intéresse pas beaucoup de monde, leur électorat. Voilà. Et en effet, du coup, à contrario, la gauche qui cette fois-ci est partie divisée, disparaît des résultats du podium en dehors de Raphaël Glucksmann et de Manon Aubry sur certaines communes, parce que forcément, le score des premiers tours de la législative est divisé par le nombre de candidats qui se sont présentés là aux européennes. Donc, déjà, c'est difficile d'analyser le match qui aurait pu avoir lieu si la configuration avait été la même qu'en 2022. Par contre, en effet, ce qui est certain, c'est que le RN cartonne et qu'en face, on n'a pas réussi, nous, à imposer des thématiques de campagne qui permettent déjà, d'une part, parce que le grand problème de la gauche demeure l'abstention, à des gens de venir se mobiliser sur nos candidatures. À Vierzon, l'abstention est de 55%. Alors évidemment, le RN fait un score énorme à 40 ou 35 ou 40%, mais l'abstention est à 55%. Donc ça veut dire que c'est considérable.
Quand tu dis, Thibault, que le RN cartonne, ça veut dire qu'il fait le plein de voix? Est-ce que ça veut dire qu'il progresse et que, d'après ce que tu vois, il étend son influence et le nombre de personnes qui le soutiennent?
Il y a un progrès du RN, sans doute, parce que il y a des anciens électeurs LR et LREM qui sont partis au RN. C'était déjà une tendance qui se vérifiait au second tour des élections législatives avec ce qu'à l'époque on avait appelé, nous, le Front National Républicain. C'est-à-dire qu'en cas de duel NUPES-RN, il y avait un report de voix qui était beaucoup plus important que ce qu'on aurait pu estimer sur les candidats du RN. Par exemple, la deuxième circonscription du 26, c'est le cas. Dans d'autres circonscriptions, je ne les ai pas toutes en tête, ça s'est aussi confirmé. Je crois que c'était Olivier Minéraud qui était candidat dans une circonscription de Gironde, qui avait été, je crois que c'est la cinquième. Voilà, exactement. Qui avait été battu au second tour parce qu'il y avait un report de voix qui était très fort en faveur du RN. Donc, et j'ai un peu le sentiment, on va regarder après à la loupe, mais que une partie de mobilisation de cet électorat au second tour pour le RN s'est refait autour des européennes. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que quand même, il y a dans les campagnes et dans la ruralité, dans les petites villes, des primo-électeurs qui votent RN. Ça se confirme dans les discussions de bureaux de vote. Et ça, c'est quelque chose, finalement, de capter un peu la jeunesse de ces territoires. C'est assez nouveau, puisqu'on avait plutôt quand même tendance à dire que les jeunes soit votaient à gauche, soit s'abstenaient. Et dans les enquêtes d'opinion post-sortie des urnes, on voit bien que, évidemment, l'abstention demeure majoritaire chez les jeunes, mais qu'on a un duel RN-LFI, quoi.
Vincent Tibéry, sociologue bordelais dans Rue 80 à Bordeaux ce matin, explique que la gauche reste en tête, et la France Insoumise reste en tête chez les jeunes devant le RN.
Mais le RN fait un gros, enfin voilà, il y a quand même un gros score. Donc en fait, on a tous ces mécanismes-là qui viennent confirmer déjà d'une part le score du RN de 2022 et qui viennent le faire progresser à certains endroits. Voilà. Et en face de ça, on a la gauche qui n'a pas réussi, elle, à jouer le match parce que elle était invisibilisée de par sa division. Voilà. Et il n'y a pas une liste qui a pris le lead plus qu'une autre. Si on regarde dans le détail un petit peu, on s'aperçoit assez nettement que le vote du centre-gauche, c'est-à-dire que entre le Parti Socialiste et les Verts, en fait, correspond plus ou moins à ce qui s'est passé il y a 5 ans, cette fois-ci, par contre, au profit du Parti Socialiste, mais même parfois avec des pertes de voix dans certains, globalement, et puis dans certains secteurs. Et à contrario, la seule force politique de gauche, en dehors du Parti Socialiste, évidemment, mais si on raisonne en bloc, progresse vraiment et qui prend 1 million de voix, c'est la France Insoumise. Donc, on voit bien que la recomposition à gauche...
Qui prend 1 million de voix par rapport à quand ?
À 2019, oui. Donc, on voit bien que la recomposition de l'espace politique à gauche, notamment entre le centre-gauche d'abord et puis sur une gauche un peu plus radicale, est encore en train de se faire. Elle n'est pas déterminée. Que les tendances des dernières années se confirment, c'est-à-dire qu'un centre-gauche qui ne progresse plus, mais qui hésite, et puis une gauche insoumise qui, elle, continue petit à petit de progresser. Et là où c'est pour le coup intéressant, c'est que on voit, j'ai commencé à travailler, donc mon travail se fait sur les villes de sous-préfecture. Et donc j'ai commencé à regarder quel était le score de la gauche entre 2019 et 2022 sur les villes de sous-préfecture, et y compris, et après dans le détail, quelle liste arrivait en tête, quelle liste progressait nettement. Et on voit bien que le progrès de la gauche entre 2019 et 2024 dans certains territoires, par exemple à la ville de Nantua, dans l'Ain, eh bien la France Insoumise est en tête de la gauche. Alors elle n'est pas en tête de l'élection, mais elle est en tête de la gauche. Alors qu'il y a 5 ans, elle était 3e ou 2e. Bon, ça veut dire qu'on voit bien que la recomposition politique est encore en train de se faire, et y compris dans les territoires ruraux de petites et moyennes villes, où il n'y a pas une existence aujourd'hui politique de gauche, mais la recomposition est en train de se faire. Mmh. Voilà.
Mais alors tout de même, tu dis, c'est intéressant, tu dis qu'il y a une question de mobilisation de l'électorat et des abstentionnistes là qui s'est pas fait à gauche, si je comprends bien. Comment du coup cette gauche dans ces territoires là, dans les petites villes, dans les territoires ruraux, même si tu notes une petite progression, comment aller chercher davantage de personnes pour que dans 3 semaines le résultat il soit différent, Thibault Lhonneur?
Alors, il va y avoir dans 3 semaines une offre politique avec ce qui s'est passé hier soir, c'est-à-dire un acte l'union comme en 2022, qui va redonner une mobilisation supplémentaire aux gens. Les élections qui arrivent ne sont pas des élections européennes. On parle d'élections législatives pour la nomination d'un nouveau gouvernement, une nouvelle majorité parlementaire, et que finalement, le vote sanction qu'a subi Macron, la Macronie dans sa globalité aux européennes, va pouvoir s'amplifier là, en ne donnant aucune majorité parlementaire au président de la République. Donc déjà, il y a cet enjeu qui est très fort. Faut quand même pas oublier que ce nouveau quinquennat de Macron se passe dans des conditions où quasiment tous les 6 mois, il y a, y compris dans la France des petites et moyennes villes, des mobilisations très fortes. Il y avait des très fortes mobilisations pendant la réforme des retraites, il y a eu de très fortes mobilisations, y compris dans la ruralité, suite à l'assassinat de Naël. Il y a eu de très fortes mobilisations là, y compris sur la question palestinienne. Alors évidemment, on a les yeux braqués sur les métropoles, mais il y a eu des manifestations chaque samedi à Vierzon. J'habite Vierzon, donc évidemment c'est plus facile pour moi de citer cette ville. Mais il y en a eu à Bourges, il y en a eu dans les petites préfectures et petites sous-préfectures. Il y a eu des mobilisations en solidarité avec la Palestine quasiment toutes les semaines depuis le mois d'octobre dernier. Donc on a partout un rejet, puis plus évidemment les mobilisations des agriculteurs et qui ont repris peu de temps avant le premier tour. Donc on a partout un rejet de la Macronie. Donc, et là, les législatives sont l'occasion, y compris pour ceux qui ont un peu boudé les européennes, de se dire on peut enfoncer le clou pour faire battre la Macronie, et que l'offre politique va être très claire. Ça va se jouer entre d'un côté Bardella, Premier ministre, et puis l'identité de la personne que le nouveau Front populaire aura désigné comme étant le potentiel ou la potentielle Première ministre. Donc, la dernière élection législative partielle qui s'est déroulée après une dissolution il y a 27 ans, en 1997, avait conduit à une hausse de la participation par rapport à 95, par rapport à 93, pardon. Il y avait une très forte participation avec plus de 70-75% de participation, ce qui avait permis d'ailleurs à la gauche de reprendre le pouvoir à ce moment-là, un peu par surprise. Il n'est pas impossible que, dans la configuration qui s'ouvre là, on ait de nouveau une très forte participation, motivée par le fait de pouvoir battre Macron, motivée par la perspective d'une union, et motivée ensuite, évidemment, par le fait de rejeter le Rassemblement National qui est au port du pouvoir. Et qu'en fait, si ces conditions aujourd'hui là sont réunies, on aura une mobilisation. Mais comment transformer cette mobilisation dans les territoires ruraux de petites et moyennes villes en faveur de la gauche? Il y a de toute façon des items à réinvestir. On l'en parlait à 2022 et on en peut encore en parler là en 2024 sur les européennes. Mais par exemple, la question de la voiture n'a pas du tout été abordée sur la campagne des européennes, alors que dans les territoires sur lesquels nous habitons, 90, 92, 95% des gens font tous leurs déplacements professionnels en voiture. Monsieur qui est là, le maire de Cré, l'ancien maire de Cré, on doit m'emmener pour pouvoir le dire. Lui, voilà, demandez-lui comment c'est. Comment on aménage l'espace pour d'une ville avec l'omniprésence de la voiture qui régit la vie quotidienne des gens? Et finalement, on n'a pas eu une seule fois quel candidat a fait une proposition sur la voiture. Alors, on sait que les voitures thermiques vont être interdites à partir de 2035. Comment on le pense? Qu'est-ce qu'on le dit? C'est quoi la question du carburant? Aujourd'hui, tous ces items-là qui fondent la vie quotidienne des gens n'ont pas du tout été investis.
Et d'ailleurs ces sujets-là ne sont pas du tout présents non plus dans les revendications des différents partis de gauche dans leurs négociations actuelles.
Absolument.
Thibault, une dernière question avant que tu nous quittes sur les négociations qui ont lieu justement en ce moment. Je disais cet enjeu de proposer un seul candidat-candidate par circonscription. Toi, tu es dans la deuxième circonscription du Cher. Il y a un député NUPES sortant, Nicolas Sansu, qui est lui membre du Parti communiste français. J'ai vu que tu avais sur les réseaux sociaux proposé ta candidature dès dimanche. C'est comment ça se passe? Est-ce que vous discutez entre vous? C'est quoi l'enjeu? Et pourquoi pas se dire il y a un sortant, on le reconduit et puis ça roule?
Il y a deux choses. Dimanche soir, l'union n'était pas actée et que il est de la responsabilité de chaque militant d'être en capacité de se présenter devant les électeurs s'il y a une élection qui se joue. Moi, je suis militant politique, c'est une élection, je suis évidemment disponible pour être candidat. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'une fois que l'union est actée, c'est la discipline qui doit prédominer. C'est normal. La discipline, c'est que si l'union acte une seule candidature par circonscription et que cette candidature fait le jeu des sortants ou fait le jeu de telle ou telle formation politique, nous, on adoptera la discipline la plus totale. C'est le meilleur moyen de ne pas avoir de voix dispersées, de ne pas avoir de candidatures dissidentes qui viennent perturber l'électorat, qui viennent rajouter des enjeux locaux à des élections nationales. Mmh. Voilà. Mmh. Tout ça se joue toujours dans minute par minute. La réalité de ce matin sera pas la même de cet après-midi et demain matin. Baptiste a commencé ton analyse, ton propos tout à l'heure en disant ce qui aujourd'hui fracturait en gros le PS et la France Insoumise sur les propositions et les revendications du programme pardon qui doivent être constitués. J'imagine qu'il va y avoir un rapprochement et que peut-être l'ouverture du propos que tu as eu là ce midi sera pas le même demain midi et ainsi de suite. Donc voilà, ça fait partie de la période perturbante pour tout le monde.
Mais peut-être voilà, quand même, comment on fait pour que dans cette discussion-là qui se joue à Paris, avant tout, les égos ne prennent pas trop de place et qu'on aille dans le sens vraiment d'une alliance pour le bien commun, j'ai envie de dire, même si ça veut tout et rien dire, puisqu'on sait qu'il y a aussi derrière cette élection un enjeu de financement pour les partis politiques. Comment on fait pour que ça se passe bien quand même, quoi ?
C'est la responsabilité de chacun, Baptiste. Ça, c'est... nous ici on adoptera une discipline. Est-ce que on l'a vu en 2022, il y a eu énormément de candidatures dissidentes qui avaient été mises notamment sur la moitié sud du pays. Ça a été préjudiciable sur la 11e circo de Gironde, hein. Mathieu Queilleux qui était candidat sur la 11e circo à Blaye de la France Insoumise pour la NUPES n'est pas passé au second tour pour quelques voix au profit de LREM et du RN, alors qu'il y avait une candidature dissidente sur sa circonscription. Voilà, c'est vraiment de la responsabilité à la fois individuelle et puis des partis politiques. Si certains ont envie de se dire nous, on vient quand même jouer le jeu de la dissidence pour perturber ci, pour perturber ça, parce qu'on joue le coup d'après, etc. C'est leur responsabilité. C'est eux qui, derrière, donneront des résultats qui ne seront peut-être pas la réalité politique s'il n'y avait eu qu'une seule candidature. Mmh. Je repose la question. Est-ce que Edwige Diaz aurait été élue députée si elle avait eu face à elle Mathieu Queilleux ? En fait, on ne sait pas. Parce que la 11e circo de Gironde est plutôt une circo traditionnellement de gauche. Voilà, elle a basculé au RN là, lors des dernières élections. Est-ce qu'elle aurait basculé si Mathieu Queilleux avait été le seul candidat ? Moi, je peux pas, on peut pas le jurer. Donc voilà, ça, c'est la responsabilité individuelle de chaque parti, de chaque personne, quoi. Il y a un enjeu très fort, et l'enjeu très fort, c'est de pouvoir battre Macron et de gagner ces élections. Et c'est quand même pour la gauche. Et je le redis, c'est un peu habituellement ce par quoi je commence mes interventions, c'est que depuis 2012, la gauche ne gagne pas les élections. On ne les gagne pas. Voilà, c'est pas des trop mauvais scores, on s'en sort pas trop mal. Parfois, c'est un peu la débandade, mais on gagne pas les élections. Voilà, depuis 10 ans, la gauche ne gagne pas les élections dans ce pays. Comment on fait pour que là, 12 ans maintenant, comment on fait pour que au 30 juin et au 7 juillet, on ait une majorité de gauche parlementaire ? Voilà, même relative. Comment on fait ?
Merci Thibault, l'honneur d'avoir pris temps avec nous depuis Vierzon. Je rappelle que tu es conseiller municipal France Insoumise et aussi que tu écris pour la Fondation Jean Jaurès. Merci Thibault, à bientôt.
Merci Baptiste et merci aux auditeurs, aux auditrices de La Clé des Ondes. À bientôt.
On continue cette émission et ce retour sur la situation actuelle et cette analyse avec toi Jean-Marie Darmian. Peut-être, il y a plein de choses qui ont été dites déjà. Comment toi, depuis l'entre-deux-mers, tu as vécu ces derniers jours, ces dernières heures et ces annonces, surtout des résultats où on voit, je le redis, cette carte brune ou dans l'entre-deux-mers. Je crois qu'il y a juste une commune où c'est la liste macroniste qui arrive en tête, sinon c'est le RN partout.
Alors moi, je ferai une analyse beaucoup plus historique et avec du recul. A priori, tout le monde a l'air surpris par le résultat. Moi, je ne suis pas du tout surpris par le résultat. Sur Créon, depuis les dernières élections, c'est 200 voix chaque fois, ou 200 voix de plus pour le Front National sur une commune qui, traditionnellement, depuis 1925, n'avait jamais voté à droite. Mmh. Bon, voilà, donc c'est une réalité. On ne pouvait pas s'attendre à ce que Créon, qui est une commune dans laquelle il y a une vie associative intense, une vie culturelle basée sur la citoyenneté, sur laquelle on fait des efforts de communication, soit dans cette situation-là. Donc il faut analyser les raisons. Les raisons, c'est une... Moi, je remonterai à une anecdote. Tu as dit que j'étais membre du Parti Socialiste. Je ne suis plus membre du Parti Socialiste.
Tu l'as été longtemps.
Je l'ai été longtemps. Mais je ne le suis plus depuis le problème de la déchéance de nationalité. Pour moi, c'est un marqueur important qui a marqué le début d'une dégringolade des valeurs de gauche, puisque Valls, ce jour-là...
C'était sous la Hollande, présidence Hollande, ouais, avec Manuel Valls mis à l'intérieur.
Mais c'est Manuel Valls qui influe fortement là-dessus. On voit ce qu'il est arrivé, ce qu'il a fait. C'est à partir de ce moment-là que la gauche a renié une partie de ce qui faisait ses valeurs et ses principes. Au nom d'une efficacité, au nom de quelque chose qui correspondait à l'opinion dominante, en fait, c'était totalement faux. Et la déviance s'est accentuée au fil du temps. Deuxième problème, c'est que je maintiens que ce vote-là doit être dissocié. On doit dissocier dans nos analyses les responsables du FN, moi je dis toujours FN d'ailleurs, et les gens qui ont voté pour eux. Moi je trouve que traiter tous les gens qui ont voté pour eux de fascistes, c'est un peu facile. Je les vois tous les jours. Mmh. Je sors du bar, là. Avant de faire l'émission, moi, je vais toujours au bar.
Et à Créon, du coup.
Oui, à Créon. Et j'écoute ce que les gens disent. Je n'ai pas entendu de gens exulter. Et pourtant, Dieu sait si dans un bar, quelquefois, on entend des choses... Je n'ai pas entendu de gens exulter sur le résultat du Front National. Au contraire, j'ai senti des gens un peu gênés aux entournures par ce qui se passait. Il y a un qui m'a dit, lundi matin, il m'a dit « Je ne croirais dans le Front National que si le lendemain du deuxième tour, le Premier ministre a lu l'augmentation du gaz. Mmh. » Sous-entendu, je ne crois pas que ça change grand-chose à la réalité de ma vie quotidienne.
Mais je vote quand même
Voilà, je veux montrer qu'il est insupportable de la manière dont je suis traité. Le troisième facteur, pour moi, c'est quand même l'image du président de la République. Enfin, ce serait vraiment, vraiment manquer à l'analyse politique que de dire que les gens ont voté contre quelqu'un qui les méprise. Ce qui ressort de trois semaines, un mois, deux mois, les trois derniers mois, c'est le sentiment que, par ses décisions, par sa position, par ses discours, par sa façon de faire, il méprise ceux qui, a priori, font le résultat d'une élection, c'est-à-dire les électrices et les électeurs. Et ce sentiment, je ne vois pas comment les gens vont s'en débarrasser. Mmh. Et malheureusement, cette réaction à l'égard du président a rebondi sur tous les leaders politiques, quels qu'ils soient. D'un côté, on va dire, Glucksmann, oui, Intello, j'ai entendu de tout, Mélenchon, la notion de tribun, mais de tribun qui va trop loin, etc. Tout le monde considère qu'il n'y a plus de figure représentative du milieu politique.
C'est un peu ce que disaient les Gilets jaunes aussi, refus de la représentation.
Oui, c'est ça, le refus de la représentation. Je ne me sens pas représenté par ce qui se passe. Et le quatrième point, je ne vois pas comment la situation peut changer. Moi, j'ai une analyse différente. Je pense que la dissolution pour Macron, c'est la fuite en avant qui lui permet de masquer toutes les difficultés qui arrivent sur la France. C'est-à-dire... j'allais dire, quelquefois, je pensais dans ma tête, puisque j'étais journaliste sportif, c'est le coup de boule de Zidane pendant le match et la finale de la Coupe du Monde. Il sait qu'il a une grande responsabilité, qu'il n'arrive pas à marquer, et tout d'un coup, pouf, ça explose, il ne se contrôle plus. Là, c'est la même chose.
C'est-à-dire, c'est la situation en Nouvelle-Calédonie, oui, c'est les finances publiques qui foutent le camp.
Voilà, les finances publiques, les finances publiques, elles n'ont jamais été dans l'histoire de la France dans une telle situation.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire le déficit colossal qui augmente chaque mois. Les chiffres sont masqués par les médias, mais il augmente chaque mois. Intérêt de la dette qui augmente de façon exponentielle chaque mois. Balance du commerce extérieur qui augmente chaque fois. Refus de l'égalité vis-à-vis de l'impôt qui aurait permis de travailler sur les recettes plutôt que sur les dépenses. Et tout ça a conduit les gens inconsciemment à voir que la situation de la France est terrible. Et j'ai entendu encore tout à l'heure au bar quelqu'un qui disait « On n'a jamais essayé le RN, mais dans la situation où l'on est, je ne vois pas ce que ça changera. » Et ça, c'est inquiétant parce que...